Laudetur Jesus Christus.
En Afghanistan, des combats font rage entre les forces gouvernementales et les talibans. Les violences dans le sud du pays ont fait 40 morts et des centaines de blessés parmi les civils. Londres et Washington accusent les insurgés de massacre. Un militant bélarusse responsable d'une ONG en Ukraine a été retrouvé pendu à Kiev. Il était porté disparu depuis hier. La police a ouvert une enquête pour meurtre. Éclairage dans quelques instants. Au sommaire également, la situation au Liban, un an après l'explosion sur le port de Beyrouth le 4 août 2020. Le pays du Cèdre s'enfonce dans la crise. Les Libanais meurent de faim, témoigne le père jésuite Olivier Borg qui a vécu durant 11 ans à Beyrouth. Et puis nous reviendrons sur la situation au Mozambique, dans la région de Cabo Delgado. Des groupes djihadistes ayant prêté allégeance à l'État islamique y poursuivent leurs exactions. Témoignage du père Angelo Romano de la communauté Sant'Egidio à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal Hélène Détombe.
Bonjour. Les combats dans les villes afghanes gagnent en intensité face à l'inquiétante offensive talibane. L'armée de Kaboul a bombardé ce matin la ville de Lashkargah. Dans cette capitale provinciale du Sud, les talibans avaient contraint plusieurs médias à cesser d'émettre. Progressant de plus en plus dans la partie méridionale du pays, les insurgés sont accusés du massacre de dizaines de civils en représailles. Un contexte militaire et sécuritaire extrêmement préoccupant, Delphine Allaire.
Oui, Hélène, la situation évolue heure par heure. Ce matin, l'armée afghane semble avoir légèrement desserré l'étau des talibans. Elle appelle désormais les habitants à évacuer la ville de Lashkargah pour chasser les insurgés un par un. Des bombardiers américains aussi ont visé des positions talibanes, mais l'avancée terrestre et aérienne de ces derniers et les violences commises inquiètent le monde entier, à commencer par Londres et Washington. L'ONU dénombre 40 civils assassinés sans motif au sud du pays ces dernières 24 heures, 118 blessés dans les affrontements entre talibans et forces afghanes. La mission onusienne en Afghanistan alerte aussi sur les conséquences des combats urbains pour la vie quotidienne de la population. Les domiciles de simples civils sont en effet souvent utilisés par les fondamentalistes islamistes comme boucliers. Les tirs sont aveugles, les établissements de santé occupés, les médias coupés, ce qui empêche les Afghans d'être au courant des attaques. Les belligérants doivent faire plus pour protéger les civils ou les conséquences seront catastrophiques, alerte donc l'ONU.
Merci beaucoup Delphine Allaire. Les États-Unis, qui achèvent leur retrait du pays, se sont engagés hier à accueillir des milliers d'Afghans ayant travaillé avec eux. Ils pourront bénéficier des programmes d'admission de réfugiés aux États-Unis. Deux premiers groupes de 400 personnes sont arrivés sur le sol américain depuis vendredi dernier. Cérémonie d'investiture ce matin du nouveau président iranien, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Dans un discours retransmis par la télévision d'État, le successeur d'Hassan Rouhani s'est engagé à tenter de lever les sanctions américaines imposées à son pays, tout en affirmant ne pas attendre des étrangers qui l'aident à améliorer les conditions de vie de la nation. Il prêtera serment jeudi devant le Parlement, auquel il présentera ses candidats pour les postes ministériels. De nombreux défis attendent le nouveau président. Outre la crise économique et sanitaire, il devra s'employer à relancer les pourparlers pour sauver l'accord international sur le nucléaire, conclu en 2015. Condamnation ce matin en Russie d'une proche d'Alexei Navalny, accusée d'avoir organisé des rassemblements en soutien à l'opposant russe. Lyubov Sobol a été reconnue coupable par un tribunal de Moscou d'incitation à la violence des normes sanitaires. Elle écope d'une peine d'un an et demi de liberté surveillée. L'opposant bélarusse Vitali Tchitchov a été retrouvé pendu dans un parc de Kiev où il s'était réfugié. Il avait disparu hier. Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête. Elle penche en faveur de la thèse d'un meurtre camouflé en suicide. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Vitali Tchitchov était le fondateur et principal responsable de Maison Bélarusse en Ukraine, une ONG qui a pour but de venir en aide à ceux qui fuient le régime d'Alexandre Loukachenko. Disparu depuis hier alors qu'il était parti faire du jogging, le corps de l'activiste a été retrouvé pendu dans l'un des parcs de Kiev, non loin de là où il habitait. Si la police enquête sur la possibilité d'un meurtre déguisé en suicide, l'ONG, elle, n'a pas de doute. Elle a dénoncé une opération planifiée par le régime du président Alexandre Loukachenko afin de liquider une personne et dans ce qui qui fut la répression au Bélarus. L'un de ses membres a même confié à l'AFP avoir été prévenu d'être plus vigilant en raison de la présence d'un réseau d'agents du KGB Bélarus dans la capitale ukrainienne. L'Ukraine, avec la Pologne et les Pays-Baltes, sont en effet les principaux États où se réfugient les journalistes, militants ou membres d'ONG qui cherchent à échapper à la répression orchestrée par Minsk. Le mari de la sprinteuse, Kristina Timanovskaya, que le pouvoir bélarusse a voulu rapatrier de force depuis Tokyo, a justement trouvé refuge en Ukraine. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Un an après l'explosion sur le port de Beyrouth le 4 août 2020, le Liban est toujours plongé dans une profonde crise sociale, économique et sanitaire. Une famille sur trois a des enfants présentant encore des signes de traumatisme de l'événement, alerte aujourd'hui l'UNICEF. Et pour cause, depuis août 2020, aucun signe d'amélioration tangible. L'enquête sur l'explosion demeure freinée par des interventions politiques. Aucune perspective économique, la population cherche à s'exiler et les Suisses sont en hausse. Le père jésuite Olivier Borg a vécu 11 ans à Beyrouth. Il dresse le portrait d'un pays qui ne parvient que faiblement à voir la lumière au bout du tunnel des nombreuses crises.
On ne peut plus aller continuer comme ça. Les gens meurent vraiment de faim. On ne peut plus acheter de la viande, on ne peut plus acheter de poisson, pas de lait, légumes, les fruits sont à des prix faramineux. Et donc les gens vraiment souffrent la faim. À tel point qu'il y a des cas de suicide quotidiens parce que les parents ne savent plus comment nourrir leurs enfants. Au centre de Beyrouth, ils arrivent à avoir peut-être 5 heures d'électricité par jour, mais dans les quartiers les plus pauvres, ils ont 5 minutes d'électricité. Le peuple libanais, dans des situations pareilles, a toujours montré un grand esprit de solidarité. Moi, j'étais là en 2006 pendant la guerre et j'ai vu ça de mes yeux. Et je sais par mes amis que ça continue. Quelqu'un me disait que les familles qui arrivent à survivre, c'est souvent grâce à l'aide qu'ils reçoivent de leurs parents qui sont à l'étranger. Je crois que aussi les gens sont très reconnaissants du soutien qu'ils sentent dans le monde, des prières aussi qui ont quand même leur valeur, et surtout du désir du pape d'aller visiter le Liban. Eux, ils l'attendent vraiment avec espérance.
Des propos recueillis par Antonella Palermo de la rédaction italienne de Radio Vatican. Paris a indiqué vouloir mobiliser 357 millions de dollars d'aide d'urgence en faveur du Liban. Le président français Emmanuel Macron présidera demain une conférence internationale de soutien au peuple libanais avec la participation d'une quarantaine d'États et d'organisations internationales. Retour à présent sur la situation au Mozambique dans la province de Cabo Delgado. Des groupes djihadistes ayant prêté allégeance à l'État islamique y étendent leur emprise. Les actions terroristes ont provoqué une crise humanitaire majeure. L'Afrique du Sud a annoncé la semaine dernière l'envoi de 1500 militaires dans le pays pour soutenir les autorités. Un déploiement qui fait suite à l'annonce en juin dernier d'une mission de la communauté de développement de l'Afrique australe. Mais la solution à la crise ne doit pas se limité à l'action militaire, observe le père Angelo Romano du Bureau des Relations Internationales de Sant'Egidio. On l'écoute.
La situation du Mozambique, on parle trop peu du Mozambique, surtout dans l'opinion publique, et les conséquences tragiques que ce conflit a sur la population civile. Disons, l'évaluation des réfugiés internes au Mozambique, plus ou moins 400 000 personnes, et 75% c'est femmes et enfants. Donc c'est tout un peuple qui fuit la guerre. Et il y a toute une activité internationale maintenant d'assistance militaire. Mais nous pensons, nous sommes convaincus que c'est nécessaire un effort de solidarité. La solution à la crise ne sera pas seulement une solution militaire. Car nous avons une région traumatisée maintenant, des gens qui ont tout perdu. Il faut faire des investissements dans l'éducation. Surtout, reconstruire la confiance entre ces populations et l'État. L'Église est présente et à côté de tous les réfugiés sans distinction. Et je pense que ça, l'instrument meilleur pour construire le futur de cette région et pour ne pas permettre que les terroristes puissent totalement détruire le tissu social de cette région.
Le père Angelo Romano du Bureau des Relations Internationales de Sant'Egidio. La Grèce connaît une vague de chaleur sans précédent. Depuis plus de 30 ans, le mercure a atteint 45 degrés dans certaines régions, augmentant les risques d'incendie. Des incendies également en Turquie. Il se rapproche ce mardi d'une centrale thermique à Milas, dans le sud du pays, alors que des milliers de personnes continuent d'être évacuées face à la progression des feux qui ont fait 8 morts. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Très bel après-midi. Au revoir.